Eh bien, chers amis, une fois encore, sur la terre, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, en espérant que vous avez passé une nuit de repos, comme je vous citais ce verset du psaume 127, le Seigneur en donne au temps à ses bien-aimés dans leur sommeil. Eh bien, nous espérons que vous avez eu un sommeil heureux dans les bras du bien-aimé. Je m'excuse encore hier d'avoir été un peu surfatigué et d'avoir fait certaines fautes que j'ai essayé de corriger cette nuit. Mais vous l'avez compris, la grande promesse du Seigneur Jésus avant de quitter les siens, c'est qu'il reviendrait. Et nous savons que pendant son absence, il est occupé, selon ses propres paroles du chapitre 14e que nous avons cité du moins en partie, il est allé nous préparer une place. Et c'est encore valable pour aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'aime à vous relire ces paroles qui sont celles de Jésus lui-même, les paroles par lesquelles il nous a accueillis, puisque j'avais aussi besoin que vous d'être accueillis par lui. Et il nous a dit que votre cœur ne soit pas troublé. C'est tellement facile d'être troublé dès le matin. Et alors la journée est longue et difficile. Croyez-vous les paroles de Jésus dès le matin, chaque jour. Que votre cœur, dit-il, ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu. Et je pense que vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas la foi en l'existence du Créateur. Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Toutes les paroles de l'Écriture sainte sont aussi les paroles de Jésus. Et il veut que nous les croyons. Vous croyez en Dieu. Mais le diable aussi y croit, mais ça ne change pas son existence. C'est pourquoi, si vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, en la personne de son Fils, qui nous a révélé les choses. Il nous ajoute, et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, dans la maison de mon Père, je suis très préoccupé par la maison de mon Père. C'est pas la maison qui je possède à Nice et qui ne se vend pas, qui me préoccupe le plus. Mais j'ai une maison où j'ai une place préparée. C'est la maison du Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'ai dit, car je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparez une place, j'ai mis des points, on ne sait pas quand il reviendra, mais enfin, si je vais vous préparer une place, ça, nous savons qu'il fait, il nous prépare une place, il reviendra. Je reviendrai. Est-ce qu'il croyait? Il y a une chose qui m'étonne beaucoup, je sais très bien qu'on se souvient des naissances. Mais chaque année à Noël, tout ce qu'on reçoit, c'est des cartes qui rappellent la naissance de Jésus. Mais bien sûr, on ne peut pas envoyer des cartes qui parlent surtout de son retour, mais moi j'aimerais que ce soit cela. On nous montre toujours un petit Jésus comme s'il n'avait pas grandi. un petit Jésus dans les bras de sa mère que nous aimons, Marie. Et comme s'il n'avait pas grandi, alors c'est toujours le petit Jésus, on dira, mais c'est pour nous faire comprendre aux enfants. Oui, mais les grandes personnes. Et alors, si vous avez pu lire ce petit texte, nous savons que le Seigneur nous prendra auprès de lui, afin que là où il est, vous soyez aussi. Mais où est-il? Au cimetière? Pour la plupart des gens, aller au ciel, c'est aller où? C'est quoi aller au ciel? C'est aller au ciel. Qui? Quoi? Ben, c'est longtemps malade, c'est vraiment. Il y a une foule de personnes, et j'espère bien qu'il n'y ait plus ces personnes-là. Aller au ciel, c'est mourir. C'est pas une espérance, la mort. Et c'est cela qui est terrible. Et c'est cela que le Seigneur veut nous donner pour conclure ces fins de semaine. Mourir, c'est pas nécessairement aller au ciel. Et pour aller au ciel, c'est pas nécessaire de mourir. Et je vous souhaite bien que vous puissiez aller au ciel sans mourir. Parce que selon l'Écriture, il y a une génération qui sera vivante au retour du Seigneur. Il faut bien qu'elle soit une génération. Eh bien, vous pouvez espérer être encore de cette génération. Et si quand même vous mourrez avant qu'il revienne, bien, vous serez quand même les premiers à le voir, puisque comme nous l'avons déjà fini hier soir, les morts en Christ à son retour seront ressuscités, et il est bien invité, premièrement, puis nous les vivants, nous serons, en un instant, en un clin d'œil, changés, comme le dit l'Écriture, et nous nous en irons avec eux. La grande rencontre, elle aura lieu où? Dans les airs. Hein. Le Seigneur revient dans les airs et nous allons à sa rencontre. Mais ce que nous allons chercher à voir dans ces journées et à bien comprendre, nous ne devons jamais isoler un texte de l'Écriture. Sans cela, nous sommes en plein dans la confusion. Si vous prenez le chapitre premier de l'Apocalypse, eh bien, vous êtes de ceux qui disent, mais quand le Seigneur reviendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Alors, tout le monde doit le voir. Non. Vous ne pouvez pas isoler ce verset, parce que si vous l'isolez, vous le mettez en contradiction avec d'autres passages. Pour qu'un passage soit authentique et que nous puissions l'accepter, il faut qu'il corresponde à tous les autres passages. Alors, ce que je voudrais simplement vous souligner ce matin, quand nous lisons l'Écriture, notre espérance, car c'est de l'espérance que nous allons parler, quelle est l'espérance du croyant? Quelle est votre espérance? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est quelqu'un? Notre espérance, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Il est notre espérance. Et ça, je l'ai dit en tout premier lieu. Votre espérance ne doit pas être quelque chose, mais quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez, parce que lui vous a aimé le premier. Et parce que vous l'aimez, vous désirez son retour. Notre espérance, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. De sorte que mourir, c'est pas une espérance. Il faut mourir, peut-être, oui, mais ce n'est pas absolument nécessaire, puisque le Seigneur a dit qu'il y en a qui ne mourraient pas par rapport à son corps. Alors, il y a donc l'espérance du croyant qui est quelqu'un. Et maintenant, l'espérance de l'Église. Deuxième espérance. De l'Église qui est formée de tous les croyants. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de l'Église? Plus fort. Aller recourir notre esprit. Oui. L'espérance de l'Église, c'est donc le retour de Jésus. C'est pas une amélioration du monde par les efforts de l'Église et par tous les capitaux que l'on pourra récolter pour évangéliser encore, quoi qu'on pense. L'espérance de l'Église, c'est d'aller là où est son Sauveur et son Seigneur, parce que l'Église n'est pas un peuple terrestre, c'est un peuple céleste. Quel est le peuple terrestre du Seigneur? Ce sont les Juifs, et vous ne pouvez pas les supprimer. On a essayé pendant des siècles et des siècles de supprimer ce peuple, et il est encore là, et plus là que jamais. Il n'y a pas de jour où on ne lit pas quelque chose d'Israël. Hein. Le peuple est là, selon l'Écriture. Donc, mais alors, l'espérance des Juifs, elle ne doit se tourner ni vers l'Amérique, ni vers la Russie, ni vers l'Europe en formation, et c'est bien là qu'ils vont se tourner, mais pour avoir la plus terrible des déceptions, après une alliance qui, selon l'Écriture, aura été signée pour 7 ans et qui s'est signée assez rapidement, au bout de 3 ans et demi, cette fameuse alliance sera rompue. L'Égypte auront fait cette alliance parce qu'ils croiront que c'est le seul moyen de subsister et de ne pas être rejeté à la mer par les Arabes. Alors, ils feront l'alliance avec les gentils, mais au bout de ce temps-là, eh bien, ce sera la déception, et c'est là que commencera pour les Juifs cette grande tribulation. Attention, c'est une tribulation qui va venir sur la terre habitée toute entière, hein. Et c'est pourquoi Jésus nous avait appris cette prière, ne nous induis pas dans la tentation. C'est la tentation eschatologique, c'est la tentation de la fin des temps. Et nous irons échapper à cette tentation, et il y a des promesses à ce sujet. Mais l'espérance d'Israël, elle ne peut se trouver que dans la venue de son Messie. Au moment le plus tragique pour Israël, le Seigneur paraîtra. Et alors, chose incroyable, à ce moment-là, ils se tourneront vers lui, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et ils se convertiront au Seigneur. Mais avant, le Seigneur aura repris auprès de lui son peuple céleste. Car quand il reviendra pour délivrer Israël, le Seigneur sera dans sa totalité terre et corps. La terre et le corps. L'Église sera avec le Seigneur. Et ne venez pas me dire, oh, mais alors l'Église échapperait à la grande tribulation. Oui, mes amis, je crois encore que l'Église échappera à cette tribulation épouvantable qui va venir sur la terre habitée tout entière. Et c'est ce que vous voyez qui se prépare. Cela ira de plus en plus mal. Et ça ira tellement mal. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre cœur? Le désir de vous en aller. J'étais au Cap Canaveral il y a 3 semaines, J'ai regardé un peu ces gens qui aiment partir là-haut, hein, mais ils n'ont pas trouvé la maison du Père. Ils reviennent. Ils reviennent toujours. Ils n'ont pas d'accident. Ils reviennent. Eh bien, chers amis, le Seigneur reviendra. L'espérance de l'Église, c'est d'être enlevé auprès du Seigneur, d'aller avec lui, mais pas pour rester dans les airs. Il les conduira dans la maison du Père, et là, dans la maison du Père, dans des plusieurs demeures, il y aura des grandes manifestations. C'est cela qui est fantastique, et il nous faut voir ces textes, qu'il est écrit que le Seigneur veille pour que tout ce qui est écrit soit accompli. C'est la parole que j'avais reçue pour cette année avec le prophète Jérémie. Il voit un bâton d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, donc, il y a une espérance pour le croyant, c'est la personne du Seigneur. Une espérance pour l'Église, c'est le peuple de Dieu qui est formé des Juifs qui se convertissent et des païens qui se sont convertis et qui forment un peuple à part pour s'en aller vers le Seigneur et qui doit être un peuple télé qui aime les choses d'en haut et non plus les choses du monde et qui se réjouit de savoir qu'il a une place préparée dans le ciel. Et puis, il y a l'espérance aussi et qui habite le croyant, cette espérance merveilleuse de la récompense du travail qui aura été fait pour le Seigneur. Et je vous cite les quatre couronnes qui sont préparées. La couronne d'or. L'aurez-vous, la couronne d'or? Oui, n'ayez pas peur. Tous les vrais croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ recevront la couronne d'or. Pourquoi? Pour s'en monter sur la terre. Pour pouvoir la jeter aux pieds du Seigneur. Dans l'adoration, tous les croyants auront leur couronne d'or, mais pas pour la garder sur leur tête, mais pour la jeter dans une adoration pure aux pieds du Seigneur. Tout nous vient de toi. Si nous sommes sauvés, c'est vraiment par grâce. Alors, la couronne d'or sera jetée au pied du Seigneur. Et il y a la couronne de vie aussi. C'est la couronne qui sera donnée spécialement à ceux qui auront été fidèles jusqu'à la mort. Chapitre 2 de l'Apocalypse, ils recevront la couronne de vie. Et puis, il y a une troisième couronne dont nous parle Paul au chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée. La couronne de la justice, ceux qui auront dans un monde d'injustice supporté les injustices et marché dans la justice, eh bien, non seulement là, ils seront complètement justifiés, mais ils recevront, ils auront les signes de cela, ils recevront la couronne de justice, nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela, et puis il y a la couronne du pasteur fidèle, quand je dis pasteur, du conducteur spirituel qui a consacré sa vie au service du Seigneur et que vous trouvez dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Eh bien, c'est la couronne de gloire. C'est la couronne des serviteurs du Seigneur qui auront été fidèles dans leur témoignage. Ils recevront la couronne de gloire, nous dit l'apôtre Pierre. C'est dans chapitre 5. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances du Christ, et qui aussi a part à la gloire qui va être révélée, baissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, vous voyez, ça ne doit pas être une contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, c'est pas un job où simplement il nous faut notre salaire d'abord, et puis sans ça, bien, on fait la grève, mais de bon gré, ni comme dominant des héritages, mais en étant les modèles du troupeau, et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infléchissable de gloire. Donc, souvenez-vous, il y a quatre couronnes qui peuvent attendre les croyants, c'est la couronne d'or, pour pouvoir la jeter au pied du Seigneur, tous les croyants l'auront, mais il y a aussi la couronne de vie, pour ceux qui auront donné leur vie, les martyrs, et puis la couronne de justice, pour ceux qui auront marché dans la justice, et pour ceux qui auront enseigné fidèlement et qui auront été les modèles du troupeau. Mais si je suis un homosexuel déclaré, et même divorcé et déclaré, est-ce que je peux conduire l'église? Eh bien, c'est ça pour nous, c'est maintenant. Jusqu'à Montréal. Et alors, vous voulez que ce soit l'église qui change le monde, qui améliore le monde quand on en arrive là? Que le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est le temps de devenir sérieux. Et nous aurons aussi, alors, l'espérance, à parler de l'espérance pour les nations qui se seront converties pendant la tribulation, et l'espérance pour les Juifs. Comment ils seront sauvés et comment ils deviendront les nouveaux témoins pour apporter l'évangile à toutes les nations de la terre, et cela en très peu de temps, puisqu'il a fallu 35 ans à peu près pour que l'évangile de Jérusalem soit à Rome. Il faudra très peu de temps pour que le reste des nations soit évangélisé, mais croyez-le, nous ne sommes pas, nous, gens de l'Église, capables de faire ce travail, parce que nous sommes trop compromis dans les iniquités du présent siècle. Mais nous voulons préserver cette espérance. Et alors, la dernière espérance, c'est l'espérance de toute la création qui, en finale, sera libérée de quoi? De cette oppression de ce joug sous laquelle elle se trouve. La création soupire et est au travail. Eh bien, voilà au-devant de quoi nous allons. Notre espérance, mais cette espérance, elle est résumée dans le Christ, parce que c'est à la gloire du Christ que le Père accomplira toutes ces choses. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu prennes vraiment en main cette retraite, que tu prépares nos cœurs, et que nous puissions vraiment recevoir une bénédiction qui soit durable, qui soit éternelle de ces journées pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien maintenant, chers amis, nous vous donnons rendez-vous vous y avez réfléchi. Est-ce que nous pouvons vraiment savoir quelque chose du ciel? Selon vous, est-ce que laissé à vous-même, vous pouvez savoir quelque chose du ciel? Oui.
Je me demande cette question pour expliquer aussi, parce que j'ai l'impression que sur le ciel, on y aurait tout à fait une semaine.
Qui est-ce qui est allé au ciel? Et qu'est-ce qu'il a dit en descendant? Comment voulez-vous que je vous parle des choses célestes, puisque quand je vous parle des choses terrestres, vous n'êtes pas même capable de comprendre? Alors, qu'est-ce qu'il leur a promis? Il ne veut pas leur parler des choses célestes, et Jésus n'en a pas beaucoup parlé. Mais qu'est-ce qu'on a vu en lui? On a vu le Père, et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ben, il y a le Père, et en Jésus, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir le ciel. C'est dans la mesure où vous voyez la personne de Jésus que vous connaissez le ciel. La manière dont on vit au ciel, hein, on se bouscule. Non. Que pouvons-nous savoir du ciel? Mais quand même, est-ce que le ciel a été ouvert? Je vais vous donner juste quelques lignes à travers la Bible pour que vous ayez une idée pour votre méditation de ce matin. Puisque vous avez ce livre et que nous avons vu ce matin que pour plusieurs personnes, qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est la mort. On meurt, puis on va au ciel, mais on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose du ciel. Mais pour beaucoup, le ciel, c'est la mort, ou alors l'enfer. Je ne parle pas du purgatoire, puisque, comme le disait mon cher ami, le père des Étels, un soir, au Montmartre canadien, le purgatoire est une doctrine qui a été ajouté à l'Église, une doctrine philosophique, mais qui n'est pas biblique. Il osait dire ça devant 300 personnes. C'est encourageant. C'est une doctrine qui a été ajoutée, mais qui n'est pas biblique. Donc, vous n'allez pas chercher le purgatoire dans le ciel. C'est ici-bas que nous devons, nous ne pouvons pas expier plus que le Seigneur a expié. Il a tout expié à la croix. Et si vous êtes vraiment enterré sur Jésus-Christ, si Jésus-Christ est devenu votre espérance, eh bien, votre espérance, c'est une personne. Et je voudrais seulement vous la souligner encore, où il est bien marqué que notre espérance, c'est quelqu'un, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé notre espérance. Où? Non, dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, notre espérance. C'est pas pour vous faire passer un examen. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul à Timothée, il écrit à son enfant dans la foi. C'est pour vous montrer que chaque mot a sa signification. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, vous pouvez souligner ça. L'espérance chrétienne, c'est une personne. Et vous n'allez pas vous perdre infiniment dans ce que peut être le ciel. Le ciel, c'est Jésus. Le ciel, c'est la présence de Jésus. Bien sûr qu'il y a une multitude de choses dans le ciel, mais ce qui compte au ciel, c'est Jésus. Et ce que nous verrons au ciel, c'est Jésus. Et que quand nous le verrons, nous lui serons rendus semblables. Chapitre 3 de la première épître, de Jean, n'est-ce pas? Quand nous le verrons, nous lui serons rendus semblables. Nous serons comme Jésus. Et c'est tellement vrai tout cela. Et pour le Père, l'œuvre de son Fils a été tellement parfaite que l'Écriture nous dit, tel qu'il est là, tel vous êtes dans ce monde. Pour Dieu, il nous voit déjà dans ce monde comme il voit Jésus dans ses perfections. Alors, finissons de nous regarder nous-mêmes et regardons le Seigneur. Votre vrai portrait n'est pas dans votre chambre à coucher ou ailleurs. Votre vrai portrait, il est dans le ciel. Mais alors, quand vous êtes sur la terre en marchant, marchez en ayant vraiment l'atmosphère du ciel dans votre entourage, puisque vous venez de là. Nous sommes des gens du ciel. Oh, bien sûr, dans des corps de chair. Mais Jésus aussi a pris un corps de chair. Mais dans son corps de chair, il a manifesté des qualités célestes. En particulier, le fruit de l'esprit était très frappant. On entend souvent les gens nous parler des fruits de l'esprit. Est-ce qu'il est parlé des fruits de l'esprit? Non. Du fruit de l'esprit. Chapitre 5 des Galates, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alors, faut pas dire, oh, mais moi j'ai l'amour, mais lui il a la joie, mais moi j'ai pas l'amour. Ça va pas ensemble. C'est l'ensemble de toutes les grâces dans lesquelles, qui donne aux croyants une personnalité attrayante dans laquelle le monde peut reconnaître quelque chose de Christ. J'ai souvent pensé qu'on pouvait avoir même des traits assez grossiers, mais une beauté céleste, et on la distingue. Il y a des gens qui ne sont pas beaux de visage, peut-être, mais qui ont une beauté céleste. Donc, vous l'avez bien compris, je l'ai dit ce matin, l'espérance du croyant, c'est une personne. Elle veut que vous vous souveniez de cela. C'est quelqu'un. Et dans ce quelqu'un, qu'est-ce que nous avons? Si vous jouez avec les morts, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais c'est que nous sommes si souvent éloignés du Christ, nous ne pensons pas en Christ. Alors qu'il est dit, si vous êtes ressuscité avec lui, pensez aux choses qui sont en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Vous voyez, tous ces versets se correspondent. Et c'est cette unité biblique qui me fait croire éperdument à l'inspiration de l'Écriture sainte. Eh bien, vous l'avez bien compris, l'espérance du croyant, c'est une personne qui écrit. Maintenant, l'espérance de l'Église. Où allons-nous la trouver? Cette Église qui est appelée, selon Jésus, puisqu'il dit, je suis allé, je reviendrai, et je vous prépare une place. Donc, on devrait être intéressé par cette maison du Père, dont nous parle en particulier le psalmiste au psaume 84, il dit, combien sont aimables ces demeures au Éternel des armées. Mon âme languit et elle se dit, il a eu la vision de ce qu'il y avait dans ces demeures. Et il languit après ce moment où il pourra entrer dans ces demeures. Et uniquement par grâce. Mais alors, l'entrée dans ces demeures, ce qui nous préoccupe, c'est que nous voudrions savoir quand est-ce que nous allons y entrer. Nous voudrions savoir comment nous allons y entrer. Parce que si je dois y entrer comme je suis, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que de toute façon, il n'y a pas besoin de s'occuper de ses habits pour aller au ciel. Vous pouvez revêtir votre mort comme vous le voulez, et même y mettre les lunettes, s'il le faut. Mais, on voit dans les salons funéraires des choses incroyables. Incroyables. Mais, ils n'ont jamais été si beaux que là-dedans. Ils sont morts, ils nous laissent la paix. Mais quand même, eh bien, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que Jésus a dit qu'il reviendrait? Mais il n'a pas dit quand. Mais il a parlé de telle manière que tous ceux qui l'entendaient pouvaient penser que c'était au cours de leur vie. Le retour du Seigneur, tous ces événements pouvaient se passer au cours d'une vie humaine. Et on sait quelle est la longueur d'une vie humaine. Donc, nous pouvons y passer nous aussi.
Alors, c'est quelque chose. Mais nous n'avons pas le droit de fixer le jour. Hein. Parce que quand on a demandé au Seigneur si c'était bientôt, quand, eh bien, il a dit que personne ne sait le jour. Que personne ne sait l'heure, pas même ni les anges, pas même le Fils. En tant qu'homme, il s'était anéanti, il avait quitté cette divinité qu'il avait de toute éternité, il s'est anéanti lui-même, il était Dieu, mais il a accepté de prendre la forme humaine et il est apparu ici-bas comme un homme. Il a été vraiment un homme. Un homme sans péché, puisqu'il n'était pas conçu dans le péché de toute façon, mais il était un homme qui était soumis à toutes les conséquences de la chute. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a été troublé, il a trouvé par moments ses disciples insupportables. Il le leur a dit, hein, jusqu'à quand vous supporterai-je, hein, depuis si longtemps qu'il était avec lui. Comment?
Il a pleuré.
Et il a pleuré, hein, il a pleuré, oui. Et ce qu'il a souffert, ne pensez pas, oh ben, quand on le flagellait, il ne souffrait pas puisqu'il était le Fils de Dieu. Il était comme homme. Et ruisselant de sang avec cette fameuse flagellation romaine. Et il ne s'est pas plaint. Qu'est-ce qu'il a dit après quand on l'a cloué sur la croix d'un brigand? Il les a maudits. J'ai jamais compris pourquoi au Québec, en particulier, on parle si souvent du mot maudit. C'est un maudit bon fromage. À moins que vous vouliez dire une maudite belle conférence. Mais il y a toujours maudit. C'est mon fils qui me l'a fait remarquer. Il était directeur à Sherbrooke d'abord. Et puis, il a dû présenter un orateur qui venait de Jérusalem, qui était un écrivain. Et puis, celui qui le présentait, qui était un Québécois, il a dit, nous avons demandé à Jean-Bernard Racine de vous présenter notre visiteur, et je suis heureux de donner la parole à ce maudit bon français. Alors, est-ce qu'on nous aime ou est-ce qu'on nous aime pas? Mais c'est tellement courant. C'est comme l'expression, levons-nous debout. Moi, j'ai toujours envie de rester assis. Si vous vous levez, c'est debout. Levons-nous debout. On tire. Mais alors, on n'a pas compris, alors on nous le répète. C'est amusant, hein. Mais c'est des habitudes que l'on a. Oh, il y en a aussi en Suisse, en France, ne vous trompez pas. Mais enfin, dans l'écriture, il y a une précision qui est vraiment à examiner chaque mot à son sens. Et vous devez donner à ce mot le sens qu'il a. Alors, l'espérance des croyants, c'est Jésus. Mais maintenant, l'espérance de l'Église, selon les Écritures, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur. Et les premiers membres de l'Église qui ont vu l'ascension, parce qu'on y est monté au ciel, quelqu'un y est monté, hein, il était déjà du ciel, il en était descendu. Mais quand il est monté au ciel, c'était sur quelle montagne? La montagne des Oliviers. Et si vous lisez toute la Bible, c'est pour ça que j'ai tellement insisté, que vous avez un petit dictionnaire dans vos mains, que tout y est. Alors, la Thompson pourra certainement vous aider là-dedans, pour ceux qui ont pu se la procurer, parce que la plupart des mots qui se ressemblent, qui sont ensemble à la fin, eh bien, quand on regardait vers le ciel, ce Jésus qui s'en allait au ciel, soudainement, là, sur ce mont des Oliviers, après leur avoir donné ces derniers ordres, Actes, chapitre 1, verset 10, qu'est-ce qu'ils regardaient, les disciples? Ils regardaient vers le ciel, hein. Ils regardaient celui qui montait au ciel. Et verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, est-ce qu'il leur avait dit qu'ils s'en allaient? Mais pour toujours? Non. Et qu'il allait leur préparer une place, et que s'ils s'en allaient, ils reviendraient. Et il est bien ajouté, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Donc, vous ne pouvez pas être trompé. Ou vous croyez pas. Moi, je ne peux pas vous obliger de croire. Si vous ne voulez pas croire, n'y croyez pas, hein. Mais, alors, vous serez guère aidé dans la vie. J'y crois et j'ai une espérance qui est une espérance vivante. Parce que mon Seigneur Jésus, il est vivant. Alors, on lit dans les journaux, les gens là, les explorateurs espèrent retrouver les eaux de Jésus-Christ quelque part en Palestine. Ça vous impressionne de lire ça? Hein? Vous n'avez rien du christianisme, alors. Mais on lit ça, et c'est des gens baptisés qui ont écrit ça. Pourquoi? Mais parce qu'on voudrait prouver que Jésus est mort. Et si Jésus est mort, c'est qu'il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection pour nous, alors faisons la grande vie. Puisque, au fond, on accepte ainsi pour jouir de quelque chose. Et de quoi peut-on jouir? Sinon du péché. Les jouissances du péché. Alors voilà dans quoi se trouve le monde. On essaye de nier la résurrection de Jésus-Christ parce que s'il est ressuscité, fils de Dieu, il sera donc le juge des vivants et des morts. Donc, que vous soyez mort ou que vous soyez vivant, il y a un jugement qui doit être subi. Mais, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, le jugement que nous devrions subir, qui est-ce qu'il a subi? C'est Jésus. Vous voyez comme faire la croix. Hein? Je vous la montre. C'est Jésus sur la croix. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est plus sur la croix. La chose a été faite. Les péchés ont été expiés, il a été descendu dans la croix, il était de la croix, il était mis dans le tombeau, et maintenant le tombeau, il est vide. Alors, il regardait fixement vers le ciel. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils avaient l'air en deuil? Non. Ils étaient vêtus de blanc, de cette lumière, hein. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous vos regards vers le ciel? Ce Jésus, quel Jésus? Celui qu'ils ont connu. Ce Jésus qui vient de vous quitter et dont Thomas a vu les mains percées, hein? C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus dont il a pu mettre la main dans le côté percé. Ce Jésus, c'est pas un autre Jésus. C'est ce Jésus qui a été arrêté, qui a été jugé, qui a été condamné par Pilate, qui a été poussé, qui a été crucifié par les soldats, qui a été enseveli par Joseph d'Arimathée. Bien, ce Jésus. Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Combien de temps est-il resté à apparaître au milieu des siens? 40 jours, vous avez cela aussi dans le début des Actes. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel, hein, il reviendra de la même manière. Alors, si vous isolez ce verset, vous pouvez lui faire dire bien des choses. Et c'est ça qui amène du trouble dans les âmes. Ce Jésus que vous avez vu enlever au ciel, il est de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais de qui est-il question? Il est question de l'enlèvement de Jésus et de son retour. Mais il y a d'autres choses qui vont accompagner son retour, comprenez-vous? C'est pourquoi il nous faut pouvoir mettre tout ensemble. Et c'est encore une mise en garde, n'isolez jamais un texte. Vous le notez, tiens, ça m'intéresse. Il reviendra de la même manière. Alors, c'est bien intéressant. Est-ce qu'il y a des contradictions dans les titres? Il reviendra. Donc, les anges ont confirmé que Jésus n'avait pas menti quand il a dit aux siens, la veille du souper, qu'il allait leur préparer une place dans la maison du Père. Alors, ça veut déjà dire que quand il reviendra, c'est pour les amener dans la maison du Père. Car, et c'est pourquoi hier, je n'ai pas fait une prière moi-même, mais j'ai récité la prière de Jésus pour bien vous montrer que c'était là sa volonté. Jean, chapitre 17, « Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. » Où est Jésus d'après ce verset? Au ciel. Et où irons-nous quand il reviendra? Au ciel. Bon, alors, cela, nous l'avons compris, il y a eu un témoignage des apôtres. Mais ensuite, il y a eu un homme qui allait mourir et qui a eu le ciel ouvert tout à coup. Ça arrive quelquefois. Qui était cet homme qui, dans les premiers temps, a vu le ciel ouvert et a dit quelque chose du ciel et de ce qu'il voyait? C'était Étienne. Alors, vous allez au chapitre 7 du témoignage d'Étienne. Et j'aime beaucoup cette histoire d'Étienne. Parce que vous voyez, au début de son témoignage, quelle apparence est-ce qu'il avait? Verset 15 du chapitre 16. Tous ceux qui siégeaient, il était devant le tribunal, au Sanhédrin, ayant les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui de... C'est beau, hein? Au début, son visage, alors qu'il avait un tas d'accusateurs, leur apparaissait comme celui d'un homme. Sur qui avait-il les yeux? Sur Jésus, dans la foi. Hein? Alors, si nos yeux sont fixés sur Jésus, eh bien, on commence à lui ressembler. Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformé en la même image. Mais qu'est-ce que je dois regarder? Si je regarde un gorille, qu'est-ce que je serais semblable à qui? Dans tous les poils, je sais. En tout cas, j'aurais pas le regard du Seigneur. Eh bien, qu'est-ce que nous regardons? Si nous regardons le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés en la même main. Bien, il regardait le Seigneur. Il n'était pas préoccupé par ses affaires. Ils m'ont accusé, ils m'accusent, et puis, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, dans le premier moment, son visage était comme celui d'un homme. Et puis, quand il finit son discours, alors, lorsqu'il ose leur dire la vérité, verset 52, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Ils osent dire que Jésus était le juste. Et que vous avez livré maintenant et que vous avez été les meurtres, dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, ça avait eu lieu où ça? Au Sinaï, hein? Et qui ne l'avez point gardé, il leur dit, vous n'avez pas gardé la loi. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient ravis. Hein? C'est ça le, votre mot? Ils étaient furieux. Vous vous rendez compte des prédicateurs qui rendent furieux les gens? Ils vont pas rester longtemps dans l'église, hein? Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient les dents contre lui. Quel bruit ça devait faire. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, c'est la fin, hein? C'est beau. Il ressemblait à un ange, on l'a dit. Puis maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Fixant les regards vers le ciel, et dans toujours du bon côté. Qu'est-ce qu'il a vu? Il vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Donc, on voit encore Jésus debout. Après, vous le voyez assis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu a donné à Israël la possibilité que Jésus revienne tout de suite. C'est pour ça qu'il pouvait leur dire, attendez-moi. Ça pouvait se passer. Et le temps de rafraîchissement, Pierre y croyait, ça aurait pu arriver plus vite. C'est pourquoi tous les premiers disciples, ils attendaient le Seigneur quotidiennement. Ça pouvait être le matin, ça pouvait être à midi, ça pouvait être le soir. Hein. Jésus était encore debout, il ne s'était pas assis. Après, vous voyez toujours, ainsi, vous savez, les mots ont un sens dans les choses. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant des regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. On a parlé des cieux ouverts. Voici, eh bien, il y en a, sont les cieux ouverts. Mais qui est-ce qui l'a occupé? Qui est-ce qui l'a dit? Je vois des choses merveilleuses. Je vois Jésus, c'est ça que je voulais souligner, n'est-ce pas? Notre espérance, c'est Jésus. Je vois Jésus debout, à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Non seulement il dit que c'est Jésus, mais il identifie Jésus à qui? Au Fils de l'homme. Et pourquoi Jésus avait-il été condamné à mort par le Sanhédrin? Parce qu'il avait employé cette expression qu'il était le Fils de l'homme. Et qui est-ce qui parlait du Fils de l'homme? Quel prophète? Daniel. C'est Daniel, n'est-ce pas? Qui voit le Fils de l'homme. Et vous verrez le Fils de l'homme descendant du ciel. Jésus avait dit cela. Et ils ont dit, avons-nous besoin de témoins? Il a blasphémé. Parce qu'on savait très bien que le Fils de l'homme, c'était le Fils de Dieu, avec un grand H, de l'homme que Dieu voulait. C'est formidable. Moi, si je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, il a identifié, alors qu'il risquait la mort, Jésus au Fils de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nie la divinité essentielle de Jésus-Christ. Il était un grand homme, on est à côté de Bouddha, on est à côté de Mahomet et d'autres. Jésus était Jésus, eh bien, devant la mort, voilà un qui aura la couronne de martyr, vous comprenez, hein. Il a osé dire que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant les oreilles, hein, on veut pas entendre. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements au pied du jeune homme, d'un jeune homme nommé Saul de Tarse. Il y avait un témoin qui ne savait pas qu'il allait devenir le grand prédicateur. Vous rendez-vous compte, une vie donnée, il t'a donné un Saul de Tarse. Voilà ce que fait Jésus. Mais nous, nous aurions épargné Étienne, parce qu'il était tellement bien préparé. Et là, il savait tout. On pouvait pas le contrer, on pouvait pas le mettre en tort. Il est dit, lisez un peu tout ce qui était dit sur Étienne. S'il y en avait un qui était préparé, qui avait eu la meilleure école biblique, c'était lui. Puis ce Saul de Tarse, oui, il avait eu de grands professeurs, mais des gens qui ne croyaient pas. Il lapidait Étienne, puis qu'est-ce qu'il disait Étienne? Oh, quelle misère! Je suis un pauvre homme, Dieu m'a abandonné? Non, il disait. Seigneur, il est vraiment en contact avec quelqu'un. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il a eu le temps de se mettre à genoux. Et il s'écria avec une voix fort, donc il n'est pas mort d'épuisement des pierres, comme Jésus n'est pas mort sur la croix d'une condition cardiaque, comme on essaye de nous faire croire. Il est mort quand il a voulu donner sa vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Pour nous, le salaire du péché, c'est la mort, mais pour Jésus, c'était nos péchés qui l'obligeaient à mourir. Il les avait pardonnés, alors il fallait qu'ils soient expiés, et c'est ça, c'est tellement merveilleux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est beau. S'endormir sur la terre, pour se réveiller au Seigneur. En attendant la résurrection, parce que c'est encore la résurrection. Mais nous allons apprendre beaucoup de choses. Et voyez-vous, il faut que cette parole vous devienne chère. Il faut que vous ayez faim de la parole. Jérémie, et pour moi c'est ma vocation, eh bien, il dit, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Il dit même dévorées, je les ai dévorées. Je les ai mangées. Elles ont fait le bonheur, l'allégresse de mon cœur. C'est beau. La lecture de la parole, est-ce que vous deviendrez? Et au point du tonique, mes amis, je vous dirais aussi, ça fait du bien au corps, quand on n'en peut plus. Relire la parole, je la dis, Seigneur, je me confie en toi. Et c'est presque instantané que le Seigneur nous donne son corps. Alors, voilà donc un homme qui a vu le ciel ouvert. Et quand ce Saul de Tarse sur le chemin de Damas, alors qu'il était plein de rage, qu'il avait vu le sang couler, bien, qu'est-ce qu'il allait faire à Damas? Vous voyez comment on peut être dur. Vous avez des personnes dans vos familles qui sont dures. Mais vous lisez la Bible. Est-ce que Dieu peut toucher un homme dur? Il a touché Saul de Tarse. Et pourquoi est-ce qu'il a touché Saul de Tarse? Lui-même, des années après, dit, c'était pour servir d'exemple à ceux qui devraient croire. J'ai été un persécuteur, un blasphémateur, un outrageux. Vous avez fait cela dans vos familles. Est-ce que vous avez cessé de prier pour lui? Il peut tout. Eh bien, Dieu m'a donné comme exemple pour que personne ne perde courage en priant pour l'un de ses bien-aimés, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous savez, s'il n'avait regardé qu'à lui-même, me concernant, il y a longtemps que j'étais loin. Mais, il m'a supporté, il m'a pardonné, il m'a relevé. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Quand on a un berger, à quoi ça sert? Le berger est là pour ses brebis. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, les années passent, mais plus on avance, plus on dit, tout est grâce. Et combien c'était vrai que j'avais besoin qu'il porte tous mes déchets à la croix, en pensée, en parole et en acte, et non seulement cela aussi, mais tous mes péchés par omission, ou tout ce que j'ai fait sans véritable conviction, parce que celui qui agit sans conviction, c'est un péché. Voilà les péchés dont nous parle l'Écriture. Alors, donc, ce soldat-là, qui allait pour persécuter les chrétiens de Damas, je ne vais pas vous faire l'école du dimanche, et c'est l'heure que vous puissiez aller à votre collation, parce que vous allez mourir de faim. Eh bien, mes amis, vous connaissez la vie de Paul de Tarse, il a entendu quelqu'un qui parlait du ciel, donc le ciel il est habité. Et qui lui disait quoi? Paul de Tarse, gardant les vêtements de ce que j'ai invité, pouvait être un visionnaire, hein. Il a à moitié assommé ce qu'il voit. Il entend le témoignage de Jésus qui lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Que tu persécutes. Donc, il apprend qu'en persécutant Étienne, qu'est-ce qu'il avait touché? Jésus. C'est ça le point de vue. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous devenez membre de son corps. Et ce qui touche Jésus, vous touche. Et est-ce que ça vous touche? Ça devrait nous toucher. C'est pas possible qu'il m'abandonne. Il a été abandonné pour que je ne sois pas abandonné. Voilà ce que dit la foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, disait Jésus, on aura l'occasion de voir, est-ce qu'il trouvera encore cette foi sur la terre? Donc pour moi, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est constant que je dois être avec le Seigneur, que je dois revenir au Seigneur. On a toutes sortes de pensées qui nous traversent l'esprit. Comprenez-vous? Au fond, on serait toujours perdu s'il n'y avait pas eu l'œuvre du Seigneur. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous, de sorte que même toutes les pensées, tout ce qui peut nous venir, parce que il y en a qui ont une doctrine qui vous dit que quand on est au Seigneur, on n'a plus de péché. C'est plus possible qu'on pêche. Bande de menteurs. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On est capable, parce que le péché est toujours dans la chair. Mais ce qu'il nous prouve, c'est que par une foi vivante, on se tienne pour mort. Alors, le péché n'a aucune puissance sur un mort. Essayez. Allez vers un mort, offrez-lui les cigarettes, le fromage, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il faisait des indigestions, il bouge pas. Il ne sera pas malade, il est mort. Mais nous, nous sommes des malades. Bien souvent. Parce que justement, nous ne sommes pas morts. Tenez-vous pour mort au péché. Le péché, il est là en nous. Mais nous n'obéissons plus au péché. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que la chair nous dit, mais tu vois, il y a tout ça qui est bon. C'est la chair qui est bonne. Alors prends-moi. Menteur, menton, je suis là. Vous savez, c'est là qu'il nous faut, dans ces derniers jours, et il y aura un grand triage qui va se faire, parce que, quand on dit que nous ne passerons pas par la tribulation, je ne vous ai pas dit qu'on n'aura pas des tribulations, et quand on voit comme on aime peu le Seigneur Jésus, et qu'on ne se réjouit pas du tout d'aller dans ses aimables demeures, pas du tout d'aller au ciel, il y a 3 semaines, quelqu'un, une jeune fille, belle jeune fille, qui me disait qu'elle venait se convertir, mais qu'elle ne désirait pas aller au ciel. Oh mon Dieu, peut-être que c'était pour pouvoir témoigner pour le Seigneur, mais c'était pas du tout ça. Elle voulait encore emmener sa petite vie à elle. Tellement beau, dit sur la terre. Et pouvoir changer de chambre. Nous sommes dans un monde incroyable, et c'est dur pour les jeunes. Je ne juge pas les jeunes. Je les aime, je suis encore des temps à 80 ans. J'irai peut-être encore à Bruxelles, j'irai aussi à Florence, parce qu'ils le désirent, mais parce que je les aime et que je trouve que c'est dur pour eux. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur et qui vivent cette mort qu'on a essayé de leur enseigner depuis des années et des années en leur disant « Tiens-toi pour mort hein. !» Et c'est pourquoi j'ai fait ici, est-ce que c'est des faits ou des sentiments? Pourquoi est-ce que je sais que je suis mort? Parce qu'il est mort. C'est un fait, c'est pas un sentiment. Il est mort pour moi, et je suis mort. Il n'avait pas d'autre raison de mourir pour moi. Alors je me considère, comme le dit chapitre 6 des Romains, comme un mort. Je vous l'ai déjà dit, j'étais tellement scandalisé en 1960, quand je suis venu au Québec pour la première fois, j'étais jeune, on m'a dit, vous savez, restez-en aux vérités élémentaires de l'école du dimanche pour nos Québécois sauvés. Parce qu'ils sont pas capables de comprendre plus. Et surtout pas Romains 6. Alors, c'est justement Romains 6 que je voulais enseigner. Parce que c'est dans Romains 6 qu'on en finit avec l'histoire de Romains 7, hein. Où on se plonge sur le misérable homme que je suis qui me délivrera du corps de cette mort. Hein? Mais quand vous avez lu Romains 5, vous savez que Jésus est mort pour vous. Dans Romains 6, vous apprenez que quand vous avez été baptisé, vous reconnaissiez que comme Christ était mort, vous êtes mort en lui, que vous méritiez la mort, alors que vous avez été identifié à lui dans sa mort. Mais comme Christ est ressuscité, vous ne restez pas sous l'eau, vous êtes vous-même aussi ressuscité en lui pour vivre la vie qu'il vit pour qui? Pour Dieu. Il vit pour Dieu. Et c'est une vie pour Dieu que nous avons besoin d'avoir. Les gens vivent pour l'argent, les gens vivent pour une nouvelle maison, les gens vivent pour une nouvelle auto. Vivez pour Dieu, il vous donnera peut-être l'auto, il vous donnera peut-être la maison, sans que vous l'ayez demandé. Et alors votre vie sera une vie d'action de grâce. Comprenez-vous? Et quand les gens voient des gens heureux et qui vivent vraiment dans l'action de grâce, ils viennent nous demander la raison de l'espérance qui est en nous. Et c'est tout autre chose comme témoignage. Tandis que nous voulons rendre témoignage. Et alors nous disons, voilà, avant que j'aille dans cette réunion, j'étais ceci, j'étais cela, puis on allonge jusqu'à 47 minutes, s'il le faut, pour dire tout ce qu'on avait fait de bon ou de mal. Hein? C'est pas ça. Parlons le moins possible de nous, mais parlons de lui et montrons-le lui-même. On arrête pour l'instant. Vous prenez les versets que vous voulez pour continuer. Alors, souvenez-vous, l'espérance du croyant, l'espérance de l'Église. Son retour, il nous faudra voir quand et comment. Ça peut être dans une vie. Ce qu'on a vu maintenant, c'est ceux qui ont vu le Seigneur dans le ciel. Mais prenez encore Paul au chapitre 12 de la deuxième aux Corinthiens. Il dit qu'il a été enlevé au troisième ciel. Alors on voudrait bien qu'il nous en parle, mais qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai entendu là des choses ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Donc on ne peut pas cesser aller à dire ce que Paul a vu, puisqu'il ne nous l'a pas dit. Mais ce qu'il a vu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Alors, je vous laisse, on verra ce que vous en pensez, et puis on continuera, puisque c'est une retraite qui doit se former ensemble. Dieu notre Père, je te remets avec une confiance éperdue, mes bien-aimés, que j'aime dans la vérité, que dans chaque groupe, il y ait un esprit d'amour, un esprit de compréhension, et que chacun puisse apporter ce qu'il a compris de toi. ou s'il lui manque quelque chose, qu'il puisse aussi le demander dans ta grâce, car tu es prêt à tout donner, puisque tu as donné le meilleur, la vie. Amen.
Rapport de l'équipe 5. On a cheminé, nous. Puis, une personne qui est attardée à tarder, pas inutilement du tout, là, à lire les psaumes. Puis, on a lu le psaume 2 au verset 4. Il est écrit celui qui plaise dans les cieux. Et par rapport à notre question qui est.
Qu'est-ce que nous avons perdu?
Qu'est-ce que nous pouvons trouver de certain à propos du ciel? Ben, c'est que il y a quelqu'un effectivement qui dans les cieux plaise. Tout le monde sait très bien, c'est Dieu.
Très bien. Le psaume 2, il nous affirme que quelqu'un siège dans les cieux. C'est le grand patron.
Ensuite, dans le psaume 6, verset 5 et 6, je vais avoir votre Bible parce que je n'ai pas écrit les versets. Il me disait ça tellement rapidement, là, j'avais pas le temps de les écrire. En fait, j'ai juste écrit les références, mais j'aimerais vous les partager si vous m'en donnez la permission.
Psaume 6, hein?
Psaume 6, verset 5 et 6. Il dit, reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, et c'est à ça qu'on doit s'attarder, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, et vous soulignez ce matin que certaines gens disent, ben, on va au ciel, on meurt, on va au ciel, et d'autres qui, pour les païens, que la mort, ben, se termine tout, et il est écrit, ça avait frappé la personne et ça a été partagé. Quand celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Et c'est vrai que si on meurt sans croire à Dieu, ben,
littéralement, on ne se souvient pas de soi dans la mort. C'est dans la vie qu'il faut se souvenir. La tradition littérale, c'est on ne se souvient pas de soi dans la mort. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que la révélation a été progressive. Alors, jusqu'à Jésus, on n'a pas dans l'Ancien Testament des très très grandes lumières. C'est Jésus lui-même qui dit que c'est lui qui connaît qui est dans le ciel et qui peut nous dire. Mais c'est pour ça que j'ai pas insisté pour que vous cherchiez dans l'Ancien Testament, mais vous auriez pu en trouver beaucoup dans l'Ancien Testament. Alors, vas-y.
Il y a une autre personne qui s'est livré à une recherche dans la concordance et qui a cherché assis et a cherché Jésus assis et on s'aperçoit que Jésus est assis à la droite du Père. Puis elle a cité plusieurs versets comme Marc 14 62 où Jésus est assis, je crois. Verset Luc 22, 69. Il faudrait les chercher, là. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas écrits.
Luc 22, 69, je te dirai. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça, c'est l'avenir. Parce que vous auriez pu prendre, si vous prenez Jésus assis, la plupart du temps, il a enseigné assis. C'est très frappant. Jésus s'assit. Et les enseignants, ils s'appellent sur la montagne, dans le bateau. Il est souvent assis pour enseigner. Alors, en étant assis, on est à la même hauteur. Direction de Dieu aussi.
Et on voit que, on peut mettre ça en parallèle avec Étienne qui le voit debout.
Il le voit debout. Mais là, c'est parce que, étant refusé par Israël, ayant le temps, il va se passer avant qu'il revienne. Mais il était inexcusable en train de se dire.
Mais la personne disait qu'elle voyait comme Jésus debout pour accueillir Étienne dans son arrivée, Étienne, si on
veut. Ah, ça oui. Mais il y a des questions, c'est
certain, hein. Dans Romains 8, 34, la personne notait que Jésus est assis, puis en plus, il intercède pour lui. Puis, c'est merveilleux, on considérait que c'est vraiment merveilleux de savoir qu'il est assis auprès du Père et qu'il intercède pour nous.
Il nous montre qu'on peut aussi prier assis. On peut prier à genoux, on peut prier assis, on peut prier couché.
Dans Colossiens 3, versets 1 à 4, on voit que Jésus est encore là, assis, et que notre vie est cachée avec lui, auprès du Père. C'est assez rassurant, je crois.
Et c'est là que nous serons manifestés, au moment où, dans Colossiens 3, 4, nous serons manifestés avec lui. Le Christ total, c'est Jésus et les autres.
En Éphésiens 2, verset 6, on voit que nous sommes vêtus avec lui. On a fait aussi que, je sais pas, la position debout, c'est pas plus confortable qu'une position assise, mais on a la confortable position d'être assis avec lui. Dans les
deuxièmement dans les épisodes.
C'est bien de savoir que Jésus pense même à notre confort dans les cieux. Une autre personne voyait dans la parabole, non pas la parabole, le jeune homme riche qui venait voir Jésus et qui demandait ce qu'il devait faire pour être,
pour avoir
la vie éternelle. Puis, on
c'est
dans
la vie de
Luc 22. Puis,
Luc 22.
Par rapport à ça, je vais mettre en relation le verset de Matthieu 6, 19 et 20. Surtout dans le verset 20, je crois, de ne pas amasser de richesses sur la terre, mais dans les cieux, où la rouille et la teigne ne ternissent point. De rechercher, c'est dans les cieux. Et ça rejoint l'idée de M. Racine que là où est ton trésor, là aussi est ton Dieu. Ah, ben, j'ai aussi ton Dieu.
C'est vrai aussi,
notre trésor est dans le ciel. Ensuite de ça, une autre personne a souligné que le ciel s'est ouvert au moment du baptême de Jésus.
Ah oui. Puisqu'on parle des cieux ouverts, le ciel s'est ouvert au baptême de Jésus.
Dans 2 Corinthiens, le verset que vous avez cité, c'est 12
heures. 2 Corinthiens
12, les quelques premiers versets, on voit comment Paul a une révélation, mais qui dit, je connais un homme, et on voit qu'il parle de lui, mais il parle d'un autre homme. Et juste afin de pas se glorifier lui-même, il dit, je connais un homme, il parle de lui, mais il dit connaître un homme, en fait, il parle de lui. Il dit, c'est pas bien de se glorifier, mais en parlant d'un autre homme, comme ça, il dit pas qu'il se glorifie lui-même.
C'est très beau. Très
bien. Bien. Puis, Mme Bourron, tu viens un article que j'ai bien aimé, c'est Jean 48-47. Jean 5, excusez, versets 46 et 47. J'aimerais le revoir. Si vous me donnez un instant.
Bien sûr. Nous en avons parlé lors de la dernière retraite. Si vous croyez Moïse.
Oui. Nécessité.
Hein?
Je vous laisse.
Non, non,
attends. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez ici parce qu'il a écrit à mon sujet. Et si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles?
C'est vrai.
Ça rejoint la parole que vous disiez ce matin. J'ai oublié. J'avais dit quelque chose par rapport à ça ce matin. Il dit ce matin, si vous ne croyez pas les choses terrestres, vous ne comprenez pas les choses terrestres que je vous dis, comment pouvez-vous comprendre les choses terrestres?
C'est Jésus qui a dit ça, hein, au chapitre 3 de Jean.
C'est ce qui clôt mon exposé pour le atelier 5.
Merci. Alors là. Alors, qui est-ce qui veut venir? Vous voulez venir vers le rapport? Thierry.
C'est
un
fait de
rester
assis avec Dieu. Thierry. Il m'a torturé pour prendre des notes. Mais ça ne dérange pas qu'il y ait un œil qui me regarde. C'est correct comme ça? Non, on a cherché d'abord tous les endroits où il parlait du ciel ouvert. Il y en a aussi dans l'Ancien Testament, comme Ézéchiel 1:1.
Ah non, oui.
Ouais. Il parle que les cieux sont ouverts et Ézéchiel a eu des visions divines. Entre autres, les êtres à quatre faces, là. Il y avait, les faces, il y avait un homme, un bœuf, un aigle, un lion. Il y a deux autres passages qui ont été mentionnés tantôt. Il y avait Pierre avec la grande nappe, là, avec
les
ouais, acte de son. Et puis aussi, un autre endroit où on parlait des cieux ouverts, c'était, dans Apocalypse 19:11. Où il parle du fidèle et véritable sur un cheval blanc. Il y avait quelque chose d'intéressant à propos d'Étienne, c'est que un de nos frères disait que le Seigneur était debout, justement prêt à accueillir Étienne. Que le Seigneur était aussi comme l'avocat pour nous. Et on trouvait important de faire ressortir toutes les choses merveilleuses qui nous attendent de l'autre bord. Comme en même temps qu'il va se passer le grand procès sur la terre, où la terre va être jugée, il va y avoir les noces de l'agneau dans le ciel, dans l'Apocalypse 19. Il y avait une sœur qui trouvait intéressant, Apocalypse 5:8, il y avait des coupes d'or remplies des prières des saints. Ça veut dire que nos prières sont conservées.
Oui.
Et puis, pour qui du ciel.
Et même nos larmes.
Même nos larmes.
Il met nos larmes dans ses vaisseaux, elles sont toutes écrites dans son livre. Et dans nos propres.
On peut voir que le Seigneur prend soin beaucoup de nos états d'âme aussi. On voyait aussi le ciel, il y a beaucoup de certitudes par rapport au ciel. Pour parler du ciel, on n'a même pas assez de la fin de semaine, c'est quelque chose qui va nous rester probablement le cœur ouvert. Parce que le ciel est comme un sanctuaire, un édifice, une demeure éternelle, où il y a une lumière inaccessible, un royaume éternel, c'est le paradis de Dieu. On voit tout ça surtout dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est le moment de la nouvelle naissance, la nouvelle alliance? Il y avait aussi un parallèle avec le ciel ouvert, avec l'étoile de Jacob, dans Genèse 28, il parle de l'étoile de Jacob, puis là, les yeux du ciel vont être ouverts pour voir les anges de Dieu descendre et monter. Et on voyait ça, le même parallèle avec le baptême de Jésus, où, même au début du Jean, on dit que le ciel va être ouvert, mais quand c'est le Seigneur qui est arrivé sur la terre.
Tu as cité Acte 28, vous avez les anges montant et descendre, par Acte Genèse 28.
Genèse 28.
La vision de Jacob et Jésus reprend dans l'évangile de Jean. Vous verrez le ciel ouvert, les anges montant et descendant au fils de l'homme.
Jean 1:51. Et puis, quelqu'un a mis en lien le baptême de Jésus où les ciels sont ouverts avec la mort de Jésus où le voile était déchiré comme tel.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus rien de caché. Donc, vraiment, le ciel est ouvert, pas juste à cause de la venue du Seigneur, mais il est ouvert pour nous autres. Parce que c'est très bien maintenant que notre avocat est à la droite de Dieu. Il y a plein de choses que nous on a beaucoup l'Apocalypse, on va pouvoir voir la Jérusalem céleste, c'est le paradis de Dieu ici. Pour Jean et Olivier, est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez que je dise? C'est correct, oui. Merci. À la gloire de Dieu.
Merci. Mon frère.
C'est surtout au début, je n'étais pas tout à fait ajusté à ce que les gens voulaient, en tout cas, je vais faire mon possible pour traduire ce qu'ils disent. On a cité un texte de Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est important. Dans Matthieu 7, 11, le corps transformé permettra de le voir tel qu'il est. Ou plutôt 1 Corinthiens 13, 12. Matthieu 7, 11. Si vous êtes mauvais, vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Oui, c'est très intéressant. Dans Jean 3, 2, bien-aimés, enfants de Dieu, les enfants de Dieu le verront face à face, semblable à lui. C'est pas tout à fait les versets tels quels, on m'a demandé de résumer en deuxième partie. C'est en gros ce que contenait le verset. Dans Apocalypse 22, 3, 5, le Seigneur Dieu les éclairera. Ensuite, Ève nous a parlé, Eva nous a parlé des noces, qui a vu le ciel ouvert. Hein? Certainement, c'était Dieu. Et il a marché avec Dieu. Il nous faisait prendre conscience qu'il fallait être en contact avec Dieu. Un peu comme l'était Enoch.
C'est
Genèse 5. C'est Genèse 5? Bon, d'accord, merci.
Et puis Hébreu 11 aussi.
Merci. Ensuite, Genèse 28, on l'a cité. Il y en a qui ont raté un peu ces paroles. Gaston, le ciel, c'est Jésus, bien entendu, une personne. La parole permet de connaître Dieu. Et dans Éphésiens 5, je pense, dans les versets jusqu'à 20, c'est pas les versets précis. Nous sommes enfants de Dieu, d'un Dieu qui aime et il nous demande d'agir comme lui. Il est amour et il est exemple aussi du Christ. Conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière et remerciez Dieu le Père en tout temps. Et Eva nous faisait remarquer cette phrase, que je trouve peut-être important de nous dire, aussi. Les chrétiens vivent sous un ciel ouvert.
Oui.
Et ça, je pense que, hein, ça le contient. Dans Psaume 17, verset 15, je verrai ta face et je me rassasirai de ton image. Éphésiens, verset 3. C'est juste le verset, hein. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis dans les cieux célestes. Dans Jean 3, 31-32, celui qui est d'en haut connaître le Seigneur et souffrir pour le Seigneur.
Alors j'espère avoir choisi, s'il y en a du groupe qui aimerait peut-être reprendre.